Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, le bonjour, le salut, pisom, enayez-vous. Un neuer Mittwoch und Sonntag d'Amorie. Machen wir ein Plätzchen. Meine Sendung fängt jetzt an. C'est un gericht, ihr große Ohrlappel. Bien le bonjour, les grandes oreilles de la Judaïka. Une petite trad s'impose. Je disais dans ma langue maternelle, dit Mutterspruch, fais-moi une place, est à l'antenne le mercredi et en rediffusion le dimanche en fin de matinée. Et c'est là depuis plus de 112 invités que je vous suggère depuis belle lurette. Alors, André Muller, qui est donc ton invité? Un peu de patience, je vais vous la présenter. Oui, mon invité est une belle personne, avec un sourire ravageur, un peu comme un éclat de lumière qui illumine vos âmes et vos boîtes à images, ou cette fenêtre captivante qui s'ouvre sur le monde. Mon invité, et nous avons une grande chance de l'avoir dans notre studio, c'est la journaliste présentatrice du journal télévisé de France 3 ou de FR3 Alsace ou de Ici Alsace, Sylvie Malal. Salut Sylvie, chère collègue, comment tu gazouilles dans ton
Bonjour
monde?
Bonjour André, bah écoute, ça gazouille plutôt bien avec ce temps printanier qu'on a.
Exactement, t'as vu comme il est beau le contact à côté, tout gazouille partout. Hein.
Ouais.
Et
ouais.
Toi aussi d'ailleurs, hein, tu es charmante. Merci d'être venue jusqu'à chez nous.
Merci à toi pour l'invitation.
Ça me fait plaisir de papoter un peu avec toi. Alors, tu as présenté pendant une longue période le journal télévisé, hein?
Ouais, hein, très longtemps.
Très longtemps, on ne va pas dire combien d'années,
non.
Oui. Mais en fait, et aujourd'hui, tu présentes un magazine dans le Grand Est.
Oui, ça s'appelle Enquête de Région.
D'accord.
En fait, c'est un magazine mensuel avec une thématique qui change chaque mois. Et j'aime bien cet exercice parce que c'est une présentation qui ne se fait pas en studio, qui se fait...
Dehors, à l'extérieur.
Dehors, à l'extérieur, à la rencontre des gens.
Dans la vraie vie, quoi.
Voilà, absolument. Et voilà, alors c'est diffusé assez tard, le mercredi soir, un mercredi par mois. Mais on peut le retrouver sur Replay, Enquête
oui,
de Région.
C'est
sur
ça.
France 3, Grand Est, Alsace-Lorraine.
Et tu es très heureuse de faire ça aujourd'hui.
J'adore.
C'est différent du journal, je pense. Hein.
C'est un exercice complètement différent. Oui, c'est bien d'évoluer comme ça. Parce que c'est vrai que le journal, je l'ai présenté pendant longtemps. J'y suis plus et c'est très bien comme ça.
Et ça ne te manque pas.
Place aux jeunes.
Ça, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, j'allais y venir. Et le présentateur ou la présentatrice, c'est un peu un siège beaucoup convoité hein, par les jeunes loups. Hein. Tout le monde a envie d'aller là, quoi.
Alors, je ne sais pas si c'est un siège convoité, parce qu'on fait aussi le journalisme. Souvent, c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime faire le terrain, on aime faire du reportage. Donc, c'est surtout ça. Après, la présentation, c'est un point de vue assez unique sur l'actu. Effectivement, c'est intéressant. Mais c'est intéressant aussi de passer à autre chose.
Oui, c'est bien. Et alors, en fait, aujourd'hui, la télévision change un peu. J'ai l'impression qu'elle a du mal à trouver sa place avec les jeunes qui regardent un peu moins le téléviseur. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de la télévision. On vient parler là d'une île lointaine qui t'est très chère, Sylvie. C'est Madagascar. Et avant d'écouter parler de Madagascar, on va écouter un peu de musique de ton île. Vas-y voir si tu veux bien, Thomas. C'est quelqu'un que tu côtoies, que tu connais bien, en fait, cette chanteuse.
Oui, je suis contente que tu aies choisi cet extrait parce que la chanteuse s'appelle Talike. C'est une très, très belle artiste.
Mais elle est aussi très connue, en fait, à Madagascar.
Oui, alors, elle fait partie... Elle s'est fait connaître avec un groupe de filles qui s'appelle Trio Tiare. Et elle était à la tête de cette formation. Elle est toujours à la tête de cette formation. Et puis, elle fait aussi des spectacles en solo. Et en fait, c'est une artiste et c'est une amie très chère qui vient du sud, de l'extrême sud de Madagascar, là où précisément on est en train de développer aussi des projets dans le cadre de notre association.
D'accord, on en parlera un petit peu plus tard, mais d'elle aussi, parce qu'elle va venir à Strasbourg un moment,
oui,
faire des concerts, et on l'invitera dans ce studio, tu viendras avec elle.
Ah bah oui,
avec grand plaisir.
Et bonne idée.
Mais moi, ce que j'ai envie de savoir un peu, comment c'est chez toi là-bas? Comment tu as grandi à Madagascar? Comment elle est ton île? Quelles sont les saveurs et les parfums qui te restent dans ta mémoire parce que tu y étais il y a quelques jours? Mais parle-moi un petit peu de ton enfance là-bas, c'était comment?
Ah bah écoute, c'était une très très belle enfance, vraiment.
Paradisiaque.
Mais je me rendais pas compte à quel point
j'avais de la chance.
Entourée par des paysages magnifiques, parce que pour moi c'était le quotidien. Donc il a fallu que je m'en éloigne en fait pour réaliser à quel point c'est précieux et qu'il faut le conserver. C'est aussi pour ça que j'ai monté cette association et dont on parlera et que tu as rejoint d'ailleurs.
Oui, oui.
Voilà. Mais donc pour revenir sur mon enfance, voilà, j'ai passé une enfance heureuse et les parfums de cette île, qui est en fait une très grande île, hein, puisqu'elle est plus grande que la France, avec des paysages très contrastés et des parfums très différents. Quand tu es au nord, tu as le parfum de la vanille.
Mais c'est connu pour la vanille.
La vanille, oui, ouais. Voilà, c'est ça. Nord-ouest a plutôt l'ylang-ylang, qui est une petite fleur jaune. Et qui a un parfum très capiteux, comme ça. Ouais. Et qui, quand tu es sur cette île de Nusi Be, que beaucoup connaissent parce que c'est une île qui est quand même assez touristique, et tu as ce parfum d'ylang-ylang vraiment qui imprime l'air. Et à l'est, tu as le parfum du clou de girofle, plutôt.
Ah oui, c'est vrai, voilà. Qu'il y a des clous de girofle.
C'est hyper varié, en fait.
Donc, tu me passes à l'instant de ton enfance, c'était paradisiaque, quoi. C'était le paradis,
c'était,
là-bas.
C'était bien.
C'était paradisiaque. Et après, on sait aussi que c'est une île très, très pauvre.
C'est une île très, très pauvre. Bah oui, c'est extrêmement beau et extrêmement triste.
Triste, beaucoup.
En même temps, de voir effectivement que les gens peinent à ce point à vivre. Du coup,
pourtant, il y a une grande richesse sur cette île. Tu parles à l'instant de la vanille, des clous de girofle, de plein de choses. Oui. Il y a aussi des minerais. Il y a aussi. Je comprends pas où va cette richesse. Qui se met ça dans la poche?
Je pense que personne ne comprend.
Ah oui.
Personne ne comprend parce que c'est vrai que c'est une île très riche qui est très pauvre. C'est l'île des contradictions.
Incroyable. Ouais.
C'est l'île des contradictions. Alors il y a une gestion politique qui est probablement et certainement pas à la hauteur, clairement. Il y a d'autres facteurs aussi de changement climatique maintenant aussi qui se fait sentir.
Parce qu'on le ressent là-bas aussi le changement.
Ouais, le changement climatique.
Absolument.
Oui, on le ressent là-bas. Ouais. C'est une île qui est très vulnérable au changement climatique. On en a fait l'expérience. Enfin, j'en ai fait l'expérience quand j'y étais.
Tu en reviens là. Tu étais il y a quelques semaines.
J'y étais il y a quelques semaines, il y a quelques jours.
Quelques jours. Ouais.
Voilà.
Tu étais bloqué par les inondations.
Voilà, je souhaitais aller dans l'extrême sud du pays, où on développe des projets dont on parlera tout à l'heure. Mais effectivement, ça a été compliqué et je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce trajet parce que les pistes étaient complètement coupées. Le sud, qui est d'habitude très aride, en fait, il a été la cible de plusieurs cyclones, dont deux qui ont été particulièrement dévastateurs et qui ont tout emporté, quoi.
Emporter la végétation, les maisons.
Emporter les routes aussi, parce
les
que
routes,
déjà
ouais.
C'était des pistes, mais alors là, elles sont devenues complètement impraticables.
Ah, oui.
Et donc, on ne passe plus. Et c'est des zones qui sont déjà très enclavées comme ça en temps normal et qui le sont encore plus maintenant. Ça n'arrange rien aux conditions des populations.
Eh oui. Et alors, tu étais là-bas en voyage, en vacances, mais aussi pour ton travail, pour ton association, l'association Mazava. Ça veut dire quoi exactement, Mazava? Raconte-moi un peu ce beau conte de fées, en fait.
Alors, Mazava, ça veut dire lumineux.
C'est la lumière.
C'est la lumière. Et c'est la clarté, c'est la lumière. Parce que, en fait, quand on a créé cette association, quand on l'a montée avec un groupe d'amis...
Beaucoup de journalistes, je crois, de la rédaction.
Pas mal de journalistes, hein, ouais. Et pas mal de collègues de la rédaction, journalistes ou pas d'ailleurs. Et puis toi maintenant d'ailleurs.
Maintenant j'y suis participe, ouais. Et puis on en reparlera tout à l'heure, c'est vrai.
On en reparlera tout à l'heure, mais quand on a monté cette association, justement on ne voulait pas sombrer dans le côté... trop mortifère. Madagascar, c'est un pays pauvre, etc. Oui, ça l'est, mais il y a aussi d'autres choses à côté.
Qu'est-ce qu'on peut faire,
et on voulait plutôt on voulait être résolument optimiste et montrer le dynamisme de gens qui ne se laissent pas abattre par la fatalité, en fait. Et c'est pour ça qu'on a, plutôt décidé d'aller du côté de la lumière.
Et alors, en fait, tu as un premier endroit qui est au centre, oui, où tu aides, un village aussi, un petit village dont, oui, dont tu as construit beaucoup de choses, tu as déjà beaucoup aidé là-bas.
Oui,
qu'est-ce que tu as fait, par exemple,
le village pilote, effectivement, est au centre, sur les hautes terres de Madagascar, au centre de l'île. C'est un village de 600 habitants, avec des maisons en terre rouge. Wow. Et sur des petites collines comme ça, et entouré de rizières en contrebas. Et c'est vraiment la campagne des hautes terres malgaches, le cliché de la campagne des hautes terres malgaches, quoi, avec des toits en chaume, etc. Et là-bas, ben, en fait, on a fait plusieurs choses, mais toujours en concertation avec les villageois, parce qu'on n'impose jamais rien. Quand on arrive sur place, on demande aux personnes avec qui on travaille ce qu'ils ont envie qu'on fasse ensemble, qu'on construise ensemble. Donc leur première réponse était qu'il leur fallait de l'énergie pour travailler, c'est-à-dire de l'électricité.
Parce qu'il n'y en avait pas, il n'y en a pas du tout.
Il n'y en a pas, comme dans la grande majorité des villages ruraux de Madagascar, il n'y a pas d'électricité. Donc on a construit un grand atelier avec qui est électrifié au solaire, au photovoltaïque,
et ça marche.
Et dans ce bâtiment, on a mis en place plusieurs unités, donc une unité de transformation agricole. On a une machine qui pour décortiquer le riz. Ça veut dire que les riziculteurs, les paysans, ils ont tout de suite de quoi traiter leur riz plutôt que d'aller ailleurs pour pouvoir décortiquer leur
moisson. Parce que le riz est enveloppé un peu comme le maïs.
Voilà, parce que le riz est un peu comme le blé, un peu comme le maïs.
Une enveloppe.
Donc on enlève ça et nous, on mange le grain de riz déjà décortiqué. Donc plus tard, cette unité, elle pourra être de transformation agricole, on peut imaginer dissécher des fruits, on pourra imaginer de dissécher des feuilles pour des tisanes, enfin voilà, des choses comme ça. On a aussi une unité couture, une unité...
Avec des machines et tout ça.
Avec des machines à coudre électriques, puisqu'on a l'électricité. On a une unité informatique aussi, enfin voilà, en concertation avec les gens, on leur demande vraiment ce dont ils ont besoin. On a aussi créé une crèche, en fait, une structure préscolaire pour les enfants, parce que les femmes avaient besoin de travailler et de mettre les enfants quelque part.
En crèche,
et ça n'existait pas, donc on l'a fait.
Et ça marche bien, ça fonctionne.
On en est à la quatrième rentrée.
Wow.
Dans l'école primaire, qui compte en tout 107 enfants cette année.
Ah,
et il y a une vingtaine d'enfants qui sont à la crèche, et 107 enfants en tout. Et pour ces 107 enfants, on a fait une cantine. Et
qui mangent gracieusement tous les jours là-bas.
Qui mangent gracieusement. Pour l'instant, c'est une fois par semaine.
Ah, c'est pas mal.
Mais on va essayer d'augmenter la cadence.
Avec tes nouveaux projets 2025.
Ça va être. On va chercher des sous cette année.
On va en chercher, on va en trouver,
Voilà.
Parce que c'est comme la fable de La Fontaine. Il y a du travail avec le laboureur, tu sais.
Oui.
Le trésor est enfoui dans la terre.
Exactement.
Et ça, on le fera. Ouais. On va juste reposer un tout petit peu les oreilles avant d'aller plus loin, Thomas. Nous voir la petite musiquette, là, la numéro 3.
Nawona kaini kilungeti Nutsi mahai taratasi Nawona kaini kilungeti Nutsi mahalala taratasi Taratasi nizireu Tenitani ambuleni Niangati nizireu Nufanu ratanien Nifiaina nizireu Demivelu namnitani Funena nizireu
En tout cas, Sylvie, je comprends pas les paroles, mais j'ai l'impression que la musique me parle. J'ai l'impression que c'est très touchant. J'en ai un peu la chair de poule quand j'entends. Qu'est-ce qu'elle dit, cette musique? Qu'est-ce qu'il nous raconte, le chanteur?
Eh ben, écoute, cette musique, elle est dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Le chanteur, il s'interroge, il se demande pourquoi est-ce que les enfants d'ici ne savent pas écrire.
À Madagascar.
Mmh. Et il dit pourquoi est-ce que les enfants d'ici ne savent pas écrire? Eh bien parce que ces enfants, ils n'ont pas de papier. Leur papier, c'est la terre. Et leur stylo, c'est la bêche.
Wow.
Et ces enfants, en fait, ils n'ont que ça. Et c'est précisément ce dont on parlait tout à l'heure. C'est que les opportunités sont difficiles quand on est dans la campagne de Madagascar. Et donc, c'est des enfants qui sont pleins d'entrain, qui sont émerveillés de tout, comme tous les enfants, mais qui n'ont pas les mêmes chances, opportunités que les autres. Et c'est pour ça que nous, à Mazav, on a décidé en priorité d'agir en milieu rural, parce que ça concerne quand même 85 à 90% de la population.
Wow, c'est énorme.
Et une population encore plus déshéritée qu'en ville, quoi.
Ouais, mais tu peux pas les aider pour les scolariser, ces enfants. Tu peux les aider pour les nourrir, pour leur trouver des habits, mais pour les scolariser, comment vous faites ?
Alors, effectivement, pour les scolariser, on travaille toujours aussi en partenariat avec les pouvoirs publics malgaches, hein, en tout cas quand ils le veulent, nous on est là, et donc on vient en complémentarité, c'est-à-dire que, par exemple, pour la fameuse structure préscolaire qu'on a montée là-bas, nous on a construit le bâtiment, et puis l'éducation nationale met en place un poste d'instituteur.
Ah, c'est bien.
Et
ça,
donc on travaille comme ça. Là, on nous a sollicité. Alors ça, je l'ai pas encore dit à notre équipe, mais mais bon, voilà, je vais le dire. Mais là, on nous a sollicité pour faire un petit peu pareil et démarrer peut-être un collège.
Wow.
Donc, qui c'est qui va mettre les profs en place? L'éducation nationale met les profs en place. Nous, on vient en soutien. Par exemple, les profs, on vient aussi les soutenir. Parce que les profs ne sont pas forcément parfaitement bien formés non plus. Donc, là, à Madagascar, en ce moment, on a une bénévole française qui intervient régulièrement à l'école pour des cours d'expression orale française, par exemple, pour des ateliers pédagogiques, pour des choses comme ça. Et là, on est en complémentarité avec la circonscription scolaire de l'endroit où on se trouve.
D'accord. Mais les bâtiments existent. C'est une vraie école avec des salles de classe.
Pour la partie préscolaire, c'est nous qui l'avons construite. Après, pour l'école, le reste des bâtiments de l'école primaire, ils existent. Maintenant, on les améliore aussi. Quand on voit qu'il y a des choses qui sont abîmées ou quand les bancs sont abîmés...
sur des photos, on
les retape.
On fait de la menuiserie.
Ouais, on fait tout ça. On essaye de vraiment qu'il y ait le moins de pertes de chance possible. On essaye d'apporter des réponses à des problèmes du quotidien.
Et en fait, tout ça, c'est piloté ici à Strasbourg, toi, avec l'association Mazava. Toutes ces décisions, vous les prenez ici transposer là-bas.
Alors, on les prend pas tout seul. Hein. On les prend avec... on a des relais sur place. On a des personnes qui travaillent avec nous à Madagascar. On pourrait pas sinon faire de loin, mais du coup, heureusement, grâce à aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'organiser des réunions en visio entre Madagascar et la France. Il y a une heure de décalage horaire, entre 1 et 2 heures de décalage horaire, donc c'est pas trop compliqué d'organiser ça et de pouvoir discuter des situations et d'ensuite de prendre les décisions. Oui, mais c'est piloté depuis ici par le comité Mazav. Voilà.
Que je connais bien. Et alors, ici, ça fonctionne bien dans cet endroit où tu me parles de cet endroit. Ça fonctionne à peu près bien.
Ça fonctionne, oui.
Plutôt pas mal.
Ça fonctionne plutôt pas mal.
Maintenant, tu as une autre idée. Tu es allé vers le sud. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu vas encore beaucoup plus loin, dis-moi.
Oui. Alors,
Le
sud, c'est aride. Le sud, c'est désertique, c'est aride. Quand on parle de Madagascar et de problèmes de famine à Madagascar, ça arrive arrive régulièrement, ben en fait, c'est toujours cette région du Sud dont on parle. Et nous, on a été sollicités par une association de femmes d'un village du Sud qui a vu un peu nos communications sur les réseaux.
Ah, sur les réseaux, d'accord.
Et donc, ils voulaient voir, parce qu'on développe aussi, on fait de la en fait, on s'occupe pas mal de régénération végétale. C'est-à-dire qu'on plante des arbres, on fait du reboisement, mais on le fait au centre de Madagascar, mais on peut le faire au sud, parce que justement, on y est allé à plusieurs reprises, et là, lors de mon dernier voyage, j'étais accompagnée par une personne qui est agronome de formation, et avec qui on a un petit peu regardé de plus près ce qu'il était possible de faire, et effectivement...
En analysant la terre
Et surprise, en fait, la terre, elle n'est pas morte.
Ah oui.
Et elle n'est pas morte, et...
Elle manque d'eau, non ?
Elle manque d'eau, certes, mais en ramenant de l'eau.
Comment tu vas faire pour ramener de l'eau ?
Alors, l'eau, là, on en revient à la personne, la chanteuse qu'on écoutait
tout à l'heure,
qui, elle, est originaire du Sud et qui a une association, elle aussi, où elle construit des points d'eau. Pour les populations du Sud. Donc, elle multiplie les points d'eau.
Mais qu'elles puissent dans la terre
Ne puissent pas. Pour l'instant, ils sont alimentés par des camions-citernes.
Ah oui.
Donc, l'association finance, son association finance.
Hein, ouais.
Mais après, l'eau est vendue. Pas cher, mais vendue quand même, ce qui permet de partager les frais, si tu veux, entre les personnes qui bénéficient de cette eau et les frais de son association. Donc, elle a des points d'eau. Et nous, à Mazave, on va venir en complément de son action planter des arbres et faire une sorte de food forest, quoi.
Des feuillus, des arbres fruitiers.
Alors oui, des arbres fruitiers plus tard, mais on peut commencer par des arbres à pousse rapide qui vont avoir l'avantage de donner de l'ombre.
De l'ombre, ouais.
Voilà, de fournir de la matière organique qui vont servir d'engrais. Pour pouvoir refertiliser cette terre. Et donc, petit à petit, comme ça, avec les racines qui vont fixer l'eau ne va pas forcément ruisseler. Du coup, elle sera un peu mieux conservée aussi.
D'accord.
Et peut-être qu'on arrivera à régénérer le sol qui n'est, encore une fois, qui n'est pas mort, mais qui nécessite peut-être qu'on la travaille un petit peu pour qu'elle puisse repartir.
Comme de la permaculture
Oui, c'est de l'agroforesterie, en fait, puisque l'idée, c'est aussi de planter des légumes lorsque les arbres auront bien poussé, quand ils auront commencé à pousser, on pourra aussi planter des légumes. Et ça, c'est une demande encore des gens de là-bas, puisque comme il n'y a aucune végétation, à part les cactus... Qui pousse, donc.
Comme aux États-Unis, quoi.
D'ailleurs, cette région s'appelle l'Andouille, c'est le pays des épineux.
Ah, des épineux, ouais.
Il y a des cactus. Mais donc, sinon, c'est au vent.
C'est près de la mer, en fait.
Près de la mer, il y a énormément de vent, et comme le vent n'est arrêté par rien, donc il emporte un peu tout, quoi. Donc les arbres auront aussi cet avantage de pouvoir briser un petit peu le
Et les arbres, tu vas les chercher où alors, ces arbres?
Et les arbres, ben justement, c'est pour ça que j'étais accompagnée avec cette personne qui est agronome. Et on a commencé à réfléchir à quel genre d'arbres faire pousser, selon les besoins des populations aussi. Donc des arbres à pousse rapide qui vont pouvoir faire de l'ombre, faire de la matière organique, servir aussi de bois de chauffe.
Ah oui.
Voilà. Et puis dans un deuxième temps, faire pousser des fruitiers.
Des fruits, des mangues.
Des manguiers, des papayers et d'autres choses encore. Voilà, on rêve un peu là.
Il faut rêver. C'est
du long terme.
Il faut rêver.
Mais c'est absolument pas impossible. Et d'ailleurs, ça sera possible.
Bien sûr. Alors, il y a un autre rêve qui nous concerne tous. Il est en train de collecter des assiettes des chefs. Et on a démarré là, il n'y a pas très longtemps,
Exactement.
Il y a quelques semaines.
Exactement.
Et on va chercher en fait des assiettes pour faire comme il y a deux ans, parce qu'il y a deux ans, c'est un beau projet qu'on a bien abouti.
Il y a deux ans, on avait fait la braderie des chefs solidaires.
Et ça avait bien marché.
Ça avait marché au-delà de nos espérances. Et là, effectivement, tu disais tout à l'heure, pour la cantine, est-ce qu'elle fonctionne tous les jours? Eh bien, la cantine, on aimerait bien passer de un jour par semaine à trois ou quatre jours par semaine pour la cantine.
Pour les enfants.
Pour ça, on a besoin d'argent, évidemment.
Mais on en trouvera.
Et l'un des gros événements qu'on va organiser cette année, c'est effectivement la braderie des chefs solidaires, deuxième édition. Et là, c'est plutôt moi qui vais faire ton interview maintenant, mon cher André.
Mais vas-y, vas-y.
Parce que c'est toi qui est un petit peu à la manœuvre dans cette histoire.
J'étais un peu à l'origine il y a 2 ans déjà, parce que j'ai fait pendant longtemps, 10 ans, une émission culinaire à France 3 Alsace et Göteborg. Donc j'ai côtoyé tellement de chefs. Et quand je le demande, frappe aux portes des chefs que j'ai côtoyés, de la vaisselle, parce que les chefs, ils ont de la vaisselle, ils ne la changent pas tous les jours. Mais celle qui change, elle est tellement dans un bel état qu'ils la stockent, qu'ils mettent du film autour et qu'ils la stockent à la cave ou au grenier, ou peu importe, dans un bel endroit. Et cette vaisselle-là, on a pu la récupérer il y a 2 ans, d'Allemagne jusqu'au sud de l'Alsace, un peu partout. C'est beaucoup de travail, ouais, mais je suis avec Claude, un autre Müller.
Il y avait des montagnes de vaisselle. Effectivement, il y avait les deux Müller, les deux le Müller qui reprend du service cette année.
Et quand on dit il y a Müller un jour, un Müller toujours. Et donc, avec mon ami Claude, on a déjà commencé. On était dans la vallée de la Bruche et on a eu de la vaisselle de la vallée de la Bruche par l'office de tourisme, que je remercie encore aujourd'hui, Madame Ostertag, qui nous a donné presque 2500 assiettes encore emballées qu'ils n'ont pas pu utiliser.
Ouais.
Et ça, c'est déjà dans nos caves. On a déjà stocké tout ça et on continue de semaine en semaine. Ouais. On va collecter.
On a plusieurs mois pour faire ça.
C'est ça, jusqu'au mois de septembre ou cet automne.
Septembre, au-delà,
on verra déjà. Ouais. Mais en tout cas, les chefs répondent présents et ça me touche énormément, parce que c'est comme si je ne les avais pas quittés depuis quelques années. On est toujours restés des fidèles amis et des gens qui sont toujours là pour nous aider et aider pour la belle cause, pour les enfants de Madagascar. Et ils ont compris ce qu'on faisait avec cet argent qu'on collecte, ce que tu viens de dire à l'instant pendant une demi-heure. Là,
voilà, c'est ça. Moi, je suis quand même curieuse de cette relation que tu as avec les chefs, effectivement, parce que là, tu viens pour leur demander quelque chose. Est-ce que c'est facile?
Non, c'est pas facile. C'est parce que c'est pas facile, mais en fait, j'ai une manière de leur parler, de leur dire que pourquoi on fait ça pour les enfants de Madagascar, qui sont souvent en haillons. Les photos que tu nous envoies de là-bas, je leur ai montré, on a fait des flyers pour leur expliquer. Et je crois que c'est pour la belle cause qu'ils le font. Ils s'en séparent parce qu'ils en ont plus besoin. Les chefs, de temps en temps, pour changer de statut ou autre, ils changent de vaisselle, ils achètent de la belle vaisselle. Et l'ancienne vaisselle, on la récupère. Et j'espère que cette année, on va parfait, qu'on va faire un plus beau chiffre qu'il y a 2 ans. Et comme toi, je rêve, mais on va y arriver. Je suis certain qu'on y arrive.
En tout cas, je te sens absolument motivé.
Complètement.
Et vraiment, ça fait plaisir.
Ben oui, ça fait plaisir aussi d'être là pour notre association. C'est la lumière. Et on est des gens lumineux. Regarde, dans le studio, il y a de la lumière partout. En tout cas, Sylvie, je te remercie d'être venue jusqu'à chez nous, jusqu'à Radio Judaïka. C'est un plaisir de t'avoir devant nos micros et de travailler, de raconter les belles causes, tout ce que tu fais. Et bravo, c'est vraiment très chouette d'utiliser
ce que tu
fais. Mais
bravo à nous tous et merci à toi.
À nous tous, merci beaucoup. Voilà, générique de fin, mon cher Thomas.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà,